Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du vendredi. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au mois d'avril, le 2. Moi, j'avais le 2 mars sur ma feuille, donc mauvaise note de ma part. Bienvenue à ce vendredi 2 avril. Nous sommes là jusqu'à minuit. Très content de vous savoir avec nous et je pense qu'on va passer un bon début de week-end ensemble. Et avant d'aller un petit peu plus loin, juste donner, il y a deux matchs qui vont assurément vous intéresser parce que les Leafs de Toronto affrontent présentement les Jets de Winnipeg. On est en troisième période, 10 minutes 10 à faire. Et c'est l'égalité 1-1 entre les Leafs et les Jets. Un autre match, la bataille de l'Alberta entre les Flames et les Oilers, c'est également 1-1. On est en deuxième période, 17 minutes 20 à faire. Et évidemment, on suivra ces deux duels pour vous tout au long de l'émission. Vous l'avez compris, c'est vendredi open bar. Vous amenez le sujet, on jase, on discute, consommation, lait, 0.5. Si c'est un week-end Pascal pour vous, vous voulez pas... voilà, on peut vous servir ça. Ah, oh, ça, c'est agréable, ça, c'est agréable, ça. Et dans notre pub virtuel sportif, eh bien, nous amenons avec nous Martin McGuire, qui est là. Salut, Martin.
Salut.
Ça va?
Moi, je vais prendre un Perrier.
Ah, il n'y a pas de problème. Mais ça, oui, mais t'es un pro, Martin. C'est sûr. Bon, hey, ceci étant dit, le Canadien s'est entraîné aujourd'hui. Avant qu'on parle de ce qui s'est dit...
Hors glace.
Avant qu'on parle de ce qui s'est dit dans les conférences de presse d'après entraînement hors glace, fais-nous un bilan médical aujourd'hui à jour. Là, ça ressemble à quoi?
Ben, on rappelle que le nom de Joel Armia figure toujours sur la liste du protocole COVID-19 de la Ligue nationale. Stall y est pour des mesures administratives. J'aurai des nouvelles de lui dans quelques instants. Tyler Toffoli soigne toujours son bas du corps à l'extérieur du groupe de ses coéquipiers. Lui, il est sur la glace. Il est allé sur la glace également aujourd'hui avec le préparateur physique de l'équipe. Même chose pour Ben Sherratt qui travaille toujours là en solitaire. En fait, en duo avec Tyler Toffoli et le préparateur physique. Pour ce qui est des autres, Jérémy, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une combinaison de séances vidéo et aussi d'entraînement en gymnase. Le Canadien a tellement un calendrier chargé au cours des prochaines semaines là, que des entraînements, il n'y en aura pas beaucoup. D'ailleurs, je fais le lien avec le premier sujet de notre intervention de ce soir. Elle concerne Eric Staal. Dans le meilleur des mondes, Jérémy, si le calendrier avait pas été si chargé, Eric Staal aurait probablement eu un entraînement complet avec ses coéquipiers, peut-être deux, mais ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. Staal va s'entraîner dimanche pendant que ses nouveaux coéquipiers seront en congé. Parce que Staal, officiellement, va pouvoir sortir demain de sa chambre d'hôtel. Il aura complété son 7 jours de quarantaine. Il pourra donc revenir au jeu. Je vais vous laisser entendre tout de suite Dominique Ducharme, qui nous confirme que son premier match sera lundi contre les Oilers.
Même si l'équipe est en congé, il a le droit de patiner. Donc, dimanche, il va embarquer sur la glace. Évidemment, ce ne sera pas un entraînement collectif, mais donc c'est possible. Sûrement lundi soir, il va être dans l'alignement.
Bien, on le souhaite pour Dominique Ducharme. Ce serait un outil fort intéressant. Je me demande maintenant... écoute, ça a été une pause intéressante pour lui.
Oui.
Il n'est pas tout jeune. Il a 36. C'est quand même pas un vieillard, là. C'est quelqu'un qui...
Non.
Et qui est dans force de l'âge dans la communauté normale. Mais au hockey, c'est pas jeune, 36 ans. Maintenant, est-ce qu'il sera en mesure de s'adapter aussi rapidement à sa nouvelle équipe sans avoir pratiqué une fois? Il va avoir quoi? L'entraînement matinal du lundi matin, à mon avis, avec l'équipe?
C'est tout. Ce sera l'entraînement de matin de match lundi. Mais écoute... c'est un vieux pro, Jérémy, honnêtement, là, avec les systèmes de jeu et tout ça, on en fait un gros plat souvent, là, mais tu sais que les équipes de la Ligue nationale là, jouent un peu le même genre de système à deux ou trois ou quatre détails près, là, ça se ressemble beaucoup. Puis quand t'as 36 ans puis t'as joué 1272 matchs dans la Ligue nationale, t'as vu quelques systèmes de jeu. Là, puis,
ça se peut que tu saches comment ça marche.
Exactement, puis ce qui va être intéressant là-dedans, Jérémy, je sais pas si tu as préparé ton tableau, là, mais on essaie de s'imaginer le tableau de Dominique Ducharme, puis on essaie de comprendre, de penser où est-ce que pourrait atterrir Eric Staal. Moi, je pense qu'il va commencer au centre.
Mm-hmm.
Pour moi, là, ça fait pas de doute. Là. Je peux me tromper, remarquez, là, ce sont des impressions très personnelles, là, mais je pense que ça va se passer au centre pour lui. À ce moment-là, ça va être intéressant de savoir il va prendre la place de qui. Je vais vous faire entendre Dominique Ducharme qui a répondu à cette question-là en anglais. Vous allez voir qu'il jongle avec une coupe d'idées.
There are many options. obviously, you know, we're going to see. We still have a game to play. Some guys are doing well together right now. We don't want to change everything, so we'll see. But I'm sure, you know, we need, and right now that's what we have, four lines going that are playing well. We'll need that.
C'est intéressant, là, parce que lui, il dit on a des trios qui vont bien. Et je pense que, tu sais, Stall, post-Stall, là, c'est clair pour moi, tu touches pas au trio de Tatar, Dano et Gallagher. Là, pour moi, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Là. C'est après. Il a formé un trio avec deux joueurs qui tentent de survivre chez le Canadien de Montréal, c'est-à-dire Paul Byron et Arturi Lehkonen, et avec Jesperi Kotkaniemi comme joueur de centre. Ils ont été très bons, Jérémy, ils ont été très très bons au cours des derniers matchs. Tu sais, Lehkonen et Byron s'accrochent. On a vu ce que Byron a fait en désavantage numérique. Jake Evans également a montré des dents. En fait, il a surtout montré qu'il voulait pas perdre sa place dans l'alignement. Ça va être un beau casse-tête. À partir du moment où on décidera peut-être de jouer Stall au centre, ben là, faites votre choix. Est-ce que Suzuki va se voir placé à l'aile temporairement? On sait qu'il connaît peut-être des moments un peu moins spectaculaires. Son trio a ralenti un petit peu, là, Drouin et Anderson de chaque côté. Est-ce que Kotkaniemi sera placé à l'aile temporairement pour faire une place à Stall, ou si tout simplement ce sera Jake Evans? Je pense que Jake Evans, de la façon dont il a joué, il mériterait au moins de pouvoir rester dans l'alignement, mais comme ailier. Ça va être intéressant. Je pense pas que Frolik a démontré tellement là pour pouvoir prendre une place vraiment prépondérante dans le top 12. Là. Alors, faites votre choix. Moi, je crois que Stall va jouer au centre.
OK, Martin, là, j'ai mon tableau sous les yeux, je te le donne, puis tu me dis si je suis dans le champ gauche. OK? Pour débuter, premièrement, je pense qu'on va prendre Eric Stall et on va le mettre sur le quatrième trio. Par contre, ça devient un outil intéressant pour Dominique Ducharme. C'est-à-dire, peut-être pas dans le match de lundi parce que c'est son premier match, mais au fur et à mesure que ça va avancer, si par moment, dans une période, tu sens que KK, c'est plus difficile, Eric Stall peut aller faire un petit tour là, revenir sur le quatrième trio. Si par moment, tu sens que Suzuki, c'est un petit peu plus difficile, tu peux aller faire un petit saut, tu reviens. Ce que tu pouvais pas faire avec Jake Evans. Jake Evans, tu peux pas l'envoyer avec Drouin et avec Josh Anderson. Donc, on met Eric Stall sur le quatrième trio. Moi, je pense, comme tu l'as mentionné, je pense que Frolik va sortir de l'alignement, ça c'est sûr. Oui. Et quand dans la conférence de presse après le match d'hier, Dominique Ducharme dit on évalue peut-être la possibilité de prendre Jake Evans et de le mettre à l'aile.
Oui.
Ben moi je me dis OK, on a besoin du jeune, le jeune est combatif, mets-moi ça à l'aile. On va embarquer ça, exemple, tu peux mettre ça avec Keke et Lehkonen, parce que je garderai Paul Byron avec Stall et Corey Perry, parce que j'ai besoin de vitesse un peu les deux.
C'est
là.
Sûr.
C'est deux vétérans puis c'est des ça, vraiment c'est des vétérans là. T'as besoin de vitesse un peu.
C'est intéressant, puis je pense que c'est un point vraiment important que tu mentionnes là. Stall peut très bien se débrouiller au centre. Il est plus aussi rapide qu'avant, puis si tu fais un jumelage avec Corey Perry, là, c'est clair que ça va prendre un peu de vitesse à gauche. Puis là, ben Paul Byron l'a retrouvé un petit peu sa vitesse au cours des derniers matchs. Alors ça pourrait être une bonne recette, ça pourrait être un bon mix. Mais c'est clair que les minutes importantes de mise en jeu clé qu'on donne presque exclusivement Philippe Dano vont peut-être être un peu plus partagés avec Eric Stall, et ce même à compter de lundi, là, parce que le monstre à deux têtes venu d'Alberta sera là lundi soir, puis eux, ils se souviennent certainement d'avoir été déclassés par le Canadien l'autre soir, là, d'avoir été blanchis. Alors, tu sais, dès que Dave Tippett va séparer Draisaitl et McDavid, les envoyer sur deux trios différents, ben tu vas avoir besoin d'un peu de doublage, puis là, ben si Suzuki n'a pas retrouvé rapidement son code postal, à ce moment-là, ça devient une tâche pour Dano et pour Eric Stall à ce moment-là, puis ça peut se faire dès le match de lundi.
Juste à dire que le monstre à deux têtes des Oilers d'Edmonton tire derrière 2-1 face aux Flames de Calgary.
Ah, 10, c'est plus difficile, là.
Ouais, 10-25 à faire en deuxième période. Les Flames veulent gagner, là. Ils vont pas se laisser passer sur le corps comme ça. On a parlé de théorie. Bon, raconte-moi un peu
écoute, l'aspect
théorique de tout ça, là.
Je veux te raconter ça. C'est parce que j'ai appelé ça de la théorie, parce que ça en était, là, durant la semaine où le Canadien a été en pause forcée, l'entraîneur nous a raconté qu'il a fait, il a tenu des séances vidéo. On a envoyé des séquences aux joueurs parce qu'on voulait les occuper, un, on voulait les impliquer, mais surtout corriger certaines petites affaires. Et dans les deux derniers matchs, on commence à voir, là, les ajustements qui ont été faits. Sur certaines choses, on est revenu à ce qu'on faisait avant, notamment pour les défenseurs qui descendent pour mettre un peu de pression sur le porteur adverse de la rondelle là, quand il quitte le territoire. Si on le faisait avant, on a essayé de faire autre chose, ça a plus ou moins bien marché. On a changé les paires de défense, puis on a recommencé à le faire. Et dans les prochains extraits, vous allez entendre Dominique Ducharme et aussi Brett Kulak qui vont nous parler des ajustements qui ont été faits pendant même la pause complète d'entraînement. Parce qu'on voulait que tout le monde soit sur la même page, parce qu'il y avait des zones grises. Puis on le voyait dans les premiers matchs sous les ordres de Dominique Ducharme, là, on sentait qu'il y avait des joueurs qui avaient envie d'aller à quelque part, mais ils n'étaient jamais à bonne place au bon moment. Alors, on a fait ces ajustements-là, même si on n'a pas touché la glace. Et ça a payé, Jérémy. On va entendre donc l'entraîneur-chef et le défenseur Brett Kulak là-dessus.
Ça m'a permis de prendre un pas peut-être de recul, puis refaire une révision, puis de polir un peu ce qu'on a mis en place. S'assurer que nos gars, comme je disais, soient confortables, qu'ils ne soient pas en réaction, mais qu'ils soient en action, qu'ils agissent. Qu'on essaie d'éviter les zones grises et puis que nos joueurs puissent vraiment être... en action, qui joue, qui pense le moins possible et que ça devienne une deuxième nature. Donc, c'est plus dans certains cas, c'est plus une façon de penser que juste des X et des O.
Yeah, I think ever since Dom took over, his thing, he loves when we play tight and we play hard and fast defensively. And then it's just we're on the same page and we have different plans in every area and pretty much every situation of the game. There's no uncertainty anywhere and everyone can know their job at any given moment and wherever the play is in the D zone, offensive zone, off all the face-offs and everything like that. And then that just, it kind of sets the tone for the game and in the shift itself.
Alors, dans le cas de Kulak, ce qu'il nous dit, c'est que on veut avoir une défense très proactive. Là. On veut avoir les joueurs là, sur rapidement pour venir casser les jeux, selon la philosophie de Dominique Ducharme. Une philosophie où on préfère vraiment s'acquitter des tâches défensives collectivement, puis attaquer après. Dans le cas de Kulak, il nous a dit qu'il fallait éviter les zones grises. Puis ça existait, on le voyait. Quand on voyait le Canadien jouer, Jérémy, là, ça sautait aux yeux dans les premiers match sous Dominique Ducharme. C'était pas des mauvaises intentions, là, mais on voyait que certains gars étaient perdus. Ce que Kulak nous dit, c'est qu'on a des situations dessinées, ben, comme dans chaque équipe, là, mais après des mises en jeu, dans des situations de jeu très, très précises pour savoir ce que chacun a à faire. Et ça a peut-être commencé à porter fruit tranquillement, pas vite, chez le Canadien.
Bon, Martin, je veux qu'on prenne quelques instants pour nous donner un peu un état de la situation avec les Canucks de Vancouver. La liste s'allonge sur le protocole de la COVID-19 pour les Canucks, là.
Écoute, au départ, on se souvient qu'il y avait Adam Gaudette et Travis Hamonic, et là, il s'en est ajouté quatre autres joueurs là, pour les Canucks de Vancouver. On va retrouver sur cette liste-là là, Edler, le gardien Oldby, il y a le défenseur Hughes, il y a Zach McEwen, qui est un joueur de quatrième trio, un joueur de réserve là-bas, et Antoine Roussel, notre Saguenéen d'adoption préféré. Alors, Antoine, donc, malheureusement, fait partie de la liste de la COVID-19, du protocole de la COVID-19. On n'a pas précisé s'il s'agit du variant, un des fameux variants dont Joel Armia a été frappé chez le Canadien, mais essayez de vous imaginer à quelle vitesse le virus s'est transmis à l'intérieur de la chambre des Canucks de Vancouver. Écoute, en l'espace de 24 heures, Jérémy, là, on est passé de 2 joueurs à 6. Et il y aurait également des personnes membres de l'équipe de soutien de la formation des Canucks de Vancouver, dont on n'a pas besoin de mettre le nom sur la liste du protocole, là, si ce, que ce soit des préposés à l'équipement ou peu importe. Là, on parle du personnel qui est autour de l'équipe, qui est dans la bulle de l'équipe. Alors vraiment, là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre et on voit à quel point le Canadien a été vite à intervenir, puis peut-être même un peu chanceux pour que les cas de COVID s'arrêtent à Joel Armia, et que finalement, on sait, dans le cas de Kotkaniemi, il n'a jamais eu la COVID-19. C'est parce qu'il a été en contact avec Armia. Alors, c'est pour ça qu'on l'a placé sur les lignes de côté puis qu'on l'a isolé. Mais vraiment, là, quand on regarde ce qui se passe à Vancouver, le Canadien s'en est drôlement bien sorti.
Oui, il y aurait même un autre joueur qui est là. On parle de 7 joueurs, mais il serait sur le taxi squad. C'est pour ça
c'est
que
ça.
Son nom ne figure pas. Et puis là, ça va repousser l'échéancier qu'on s'était fixé. Retour à l'entraînement le 6, puis match le 8. Oubliez ça, ça va être un petit peu plus long que ça. Là.
Ça pourrait aller un petit peu plus tard que ça, bien évidemment. Puis là, ben écoute, ça ne touchera pas le Canadien pour la réorganisation du calendrier des Canucks, parce que le Canadien avait terminé sa série d'affrontements en saison régulière face aux Canucks. On a bougé les matchs du Canadien. Il y a peut-être des adversaires du Canadien dont les matchs vont être un peu chamboulés. Là, c'est le cas des Jets de Winnipeg. Alors, vraiment, là, la division Nord avait été épargnée, mais là, elle ne l'est plus au moment où on se parle. Je pense que les clubs canadiens sont en train de vivre un peu ce que les clubs américains ont vécu au cours des 3, 4, 5 dernières semaines.
Bon, Martin, nous, ce qu'on fera de notre côté, c'est qu'on va se concentrer sur le Canadien. On va laisser les Canucks faire leur boulot, mais au moins, il y a du hockey et ça fait du bien à tout le monde. Ça reprendra demain alors que les Sénateurs d'Ottawa seront de passage au Centre Bell à 1h60 avant le match demain.
Oui, on est là à 18h et je vais terminer là-dessus. Là. Je vais parler à tes auditeurs 10 secondes quand vous voyez ce qui se passe, là. Puis que dans les équipes de la Ligue nationale, on prend tellement de précautions, puis qu'on isole les joueurs. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, nos auditeurs, s'il vous plaît, en fin de semaine, soyez prudents.
Un très bon message. Martin, je te remercie, puis on vous écoute demain pour le match entre le Canadien et les Sénateurs. Merci, Martin.
Bye-bye, bonne émission.
Merci, au revoir. Martin McGuire qui nous faisait un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui chez le Canadien de Montréal. On s'arrête quelques instants. Au retour, je fais un résumé complet de ce qui se passe présentement dans le monde du sport.